il faut que je me confesse. Il faut que je me confesse parce que quand il y a 2 semaines, un mardi, je suis rentré dans cette salle de culte, j'ai dit au Seigneur, ce que je fais assez régulièrement, Seigneur, j'ai pas d'idée sur l'étude biblique qui approche. Alors je veux que quand je sorte de cette salle de culte, j'ai mon thème. Et ça marche à chaque fois. Et là, il y a eu le moment de la prière derrière. Gérald s'est mis sur scène et au bout de 3 minutes de prédication, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, ce serait bien, Simon, que tu fasses une prédication sur la scène. Ce à quoi, bêtement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la scène? Le pain, le corps, le fruit de la vigne, le sang, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je me suis donc très courageusement tourné vers Pacôme à la fin de l'étude biblique et je lui ai dit, tu as la primeur, si tu veux faire sur la scène, toi qui passes juste avant moi, mardi dernier, tu peux y aller. Je suis rentré chez moi, j'ai mangé, je me suis couché. J'ai pas réussi à ouvrir, à fermer les yeux jusqu'à 23 heures. Et j'ai été travaillé par le Seigneur, repris par le Seigneur. Et tout ce que je vais vous apporter, je l'ai reçu à 23 heures. Ce qui m'a poussé à prendre mon portable, à envoyer un message à Pacôme lui disant « Je me sens travaillé, Pacôme, tu ne peux pas savoir. » Je ne lui ai pas dit que j'étais repris par le Seigneur. « Je me sens travaillé par le thème, tu ne peux pas savoir. Est-ce que ça te dérange si je fais sur la scène ?» Je vais donc vous apporter sur la scène ce soir, et c'est un acte d'obéissance. C'est d'autant plus un acte d'obéissance que je pense que le Seigneur en a bien rigolé. C'est la première fois que je me retrouve à supprimer des pages parce que c'était trop long. J'ai supprimé 4 pages. Bref. Donc la scène. Je repars du texte dans Acte 2 qui était au fondement de l'apport de Gérald il y a 2 semaines, de celui de Pacôme de la semaine dernière. Acte 2, verset 42, on est juste après que le Saint-Esprit soit descendu sur les disciples et l'enseignement de Pierre qui y a succédé. Et il nous est dit ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On a eu un apport sur la persévérance dans la communion fraternelle, sur la persévérance dans les prières. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la persévérance dans la fraction du pain. La scène vient du latin cena, qui signifie souper, dîner. Et si on en croit l'étymologie du mot latin, c'est koinos, ça signifie dîner en commun. Repas de fin de journée en commun. Ce mot désigne le dernier repas qui a été pris par Jésus avec ses apôtres la veille de sa mort et plus particulièrement le sacrement qu'il a institué au cours de ce repas. Je vous ai mis le tableau de Léonard de Vinci qui représente cette fameuse scène de la scène. D'ailleurs, tableau sur lequel Gérald avait prêché il y a quelques années maintenant. Donc voilà la scène qui nous est présentée. Voilà ce que nous disent les évangiles sur la scène. Je vous ai pris Matthieu 26 parce que je trouve que c'est le passage le plus complet sur la question. Malgré tout, je vous invite à comparer avec Marc 14 et Luc 22 qui retracent le même événement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà le passage qui sera au fondement de cette étude biblique. Et j'ai relevé 4 points, 4 enseignements sur lesquels j'aimerais qu'on se penche ce soir. Déjà, le pain comme symbole du corps de Christ qui doit être rompu pour être partagé entre tous. Ensuite, la coupe contenant le fruit de la vigne, qui est le sang de l'Alliance répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus, qui ne boira plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira à nouveau dans le royaume de Dieu. Et enfin, cet appel à faire ceci en mémoire de Jésus. Premier point, le pain comme symbole du corps de Christ qui doit être rompu et partagé entre tous. Le pain a une place significative dans la Bible. La notion est présente sur 340 versets, tout de même, dans la version Louis II, ça désigne un produit qui est à la base, en réalité, un produit à base d'eau, de farine, quelque chose de relativement simple. Et c'est en raison de la simplicité de son élaboration que le pain va être un aliment de base pour à peu près tous les peuples de l'Antiquité. C'est tellement vrai que la Bible désigne par pain l'alimentation en général. C'est le pain est l'aliment par excellence. Et c'est à cet aliment que Jésus va se comparer pour enseigner ses disciples sur l'importance de sa personne. C'est la grande révélation qui nous est offerte dans Jean au chapitre 6. Jésus est le pain de vie. Le pain, c'est un élément central de ce chapitre. Le mot y apparaît 21 fois. Au début du passage, on a Jésus qui multiplie les 5 pains d'orge et les 2 poissons qui lui sont proposés pour nourrir une foule de 5000 personnes. Alors, 5000 hommes, on voit en réalité que dans Matthieu 14, les femmes et les enfants n'étaient pas comptés, ce qui signifie qu'il y avait très certainement une foule bien plus nombreuse. Les estimations faites par des commentateurs bibliques estiment que bon, on est plus autour des 15 à 20 000 personnes. Toujours est-il que le miracle est quand même relativement conséquent. Après cet épisode, les disciples prennent la mer pour se rendre à Capharnaüm et Jésus, si vous vous souvenez bien, les rejoint à pied, marchant sur l'eau. Et le lendemain, les gens de la foule, voyant que Jésus, que ses disciples ont disparu, prennent eux-mêmes en réalité des barques et vont à Capharnaüm pour retrouver Jésus. Et là, on en est ici dans ce passage. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire, s'il vous plaît ? Merci. Et Jésus poursuit un tout petit peu plus loin au verset 47 à 51, ceci. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire, s'il vous plaît ? Merci. Jésus se présente ici comme une nourriture céleste. Une nourriture qui vient d'en haut, envoyée par Dieu et qui est nécessaire à la vie de tout croyant. Il essaye ici de détourner l'attention de son auditoire de simplement leur estomac et de cette seule nourriture physique qui les a attirés jusqu'à Capharnaüm, en leur partageant l'importance d'une nourriture spirituelle pour leurs âmes. Mais ceux qui l'écoutent en réalité semblent ne pas comprendre. Ils restent plus préoccupés par leur état charnel, l'état de leur estomac, que celui de leur âme. Ce qui est magnifique dans ce passage, c'est que Jésus rebondit en réalité sur un événement de l'Ancien Testament qui est évoqué par l'assemblée qui écoute son enseignement. C'est ce qui nous est dit au verset 31. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Dans l'Ancien Testament, alors que le peuple a été miraculeusement sorti d'Égypte par le biais de Moïse et qu'il commence à murmurer parce qu'il a faim, Dieu fait pleuvoir une nourriture venue du ciel, une manne. On le voit dans Exode au chapitre 16, versets 14 à 15. Il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Cette manne, qui pleuvra sur le peuple hébreu pendant 40 années, jusqu'à ce qu'il rentre en terre promise, ressemble à de la graine de coriandre, nous dit la Bible, avait l'apparence du bdellium, une sorte de gomme résineuse. Elle était blanche et avait le goût du miel. Le mot hébreu traduit par manne signifie littéralement « qu'est-ce que cela ?» À chaque fois qu'il est écrit « manne » dans la Bible, c'est « qu'est-ce que cela ?» Qu'est-ce que cela ? Cette nourriture, ce « qu'est-ce que cela ?» symbole du secours de Dieu dans la détresse, manifestation d'un Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple, c'est en réalité la préfiguration de ce que Jésus est venu réaliser par son sacrifice. De la même façon que Dieu a pourvu aux besoins de son peuple, le peuple hébreu quand il s'est trouvé dans le désert, sans avoir de quoi se nourrir, de la même façon, Dieu a envoyé le véritable pain du ciel, son fils Jésus, pour satisfaire notre besoin spirituel. Les Hébreux avaient besoin de nourriture physique pour ne pas mourir de faim. Dieu a envoyé de la manne. L'humanité avait besoin d'une nourriture parfaite pour ne pas mourir spirituellement. Dieu a envoyé son fils. Dieu a répandu sur son peuple la manne pour qu'il puisse être nourri. Dieu a répandu sur l'ensemble de l'humanité la grâce, le salut de nos âmes par le biais de son fils. Comme le dira Jésus dans Matthieu, au chapitre 4, au verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce n'est pas la première fois que cette formule apparaît dans les Écritures. En réalité, elle fait référence à ce que Dieu dira à Moïse des siècles auparavant dans Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La faim que le peuple a ressentie, la manne que Dieu a envoyée pour le délivrer de sa souffrance, ont été un pédagogue pour le peuple, un enseignement. Dieu s'en est servi pour leur faire comprendre une chose fondamentale, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. Il a aussi des besoins spirituels, il a donc besoin de se nourrir de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça préparait un chemin pour une révélation encore plus grande, cette manne spirituelle, ce pain qui vient du ciel, ce pain par excellence qui est le seul à donner la vie éternelle, c'est Jésus. La parole qui s'est faite chair. C'est ce que nous dit Jean au chapitre 1, quand il est dit ceci, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, au verset 1. Pour poursuivre au verset 14 en disant « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus dépasse donc de beaucoup la manne répandue sur le peuple hébreu parce que celle-ci ne faisait que répondre à un besoin physique et n'avait pour objectif que de préparer le cœur de chacun à une nourriture plus excellente qui viendrait combler les besoins spirituels, Jésus. Ce pain qui vient du ciel, c'est donc Jésus, c'est le pain de vie. Et on le voit dans Jean au chapitre 6, verset 51, quand Jésus dit « Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde ». Voilà pourquoi au jour de son dernier repas, Jésus compare son corps qu'il va offrir en sacrifice au pain qui est posé ici sur la table. Il est le pain qui nous nourrit spirituellement. Et ce pain, je l'ai souligné tout à l'heure, doit être rompu pour que le corps de Jésus, de Jésus l'a été en réalité pour nous. Le terme qui a été utilisé, c'est le terme clasis, ici dans la Bible. Et ça renvoie à la formule qu'utilisera de manière prophétique Ésaïe dans Ésaïe chapitre 53, verset 10. Il nous est dit ceci, « Il a plu à l'Éternel de le briser, clasis, par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Ça rejoint ici ce que Paul dira dans 1 Corinthiens 11, quand il enseignera sur la pratique de la fraction du pain, quand il dira ceci dans 1 Corinthiens 11, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Là, c'est le corps du Christ qui est rompu pour nous. « Faites ceci en mémoire de moi. » La symbolique donc de la fraction du pain, du fait de rompre ici, c'est quelque chose en réalité de très fort. On a le pain, on a cette rupture, cette fraction du pain. Il y a une dernière chose que je pense qu'il est important de noter vis-à-vis de ce pain, c'est qu'on est invité à manger tous du même pain. Ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'est extrêmement important. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 10, quand Paul nous dit que le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ainsi, le fait de manger du même pain fait de nous un seul corps. On mange d'un seul pain, on forme un seul corps. Ça nous rappelle l'enseignement fondamental de Paul dans Galates, au chapitre 3, au verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Cet enseignement, il le tiendra aussi à l'église de Corinthe quand il dira dans 1 Corinthiens 12, verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il y a donc, si vous voulez, l'idée quand même dans cette fraction du pain de la communion fraternelle, d'une communion, une communion fraternelle qui dépasse la simple communion fraternelle, puisque c'est une communion aussi au corps de Christ. C'est le pain venu du ciel, le pain par excellence qui nous réunit. Il est important que nous en soyons conscients quand nous mangeons du pain ensemble. Nous sommes un en Jésus. Et si vous voulez, cette image était tellement gravée dans mon cœur, elle était tellement forte que je suis allé sur ChatGPT et je lui ai dit « Voilà ce que tu vas me faire comme image. Je veux trois images. » Je veux une première image qui montre un pain qui est rompu. Je veux des personnes derrière qui tiennent chacun leur morceau de pain dans les mains. Et je veux que la dernière image nous montre ces mains qui réunissent leurs morceaux pour montrer qu'en réalité, ce qu'elles vont manger, c'est ce qui les unit parce que le pain du Christ, le pain qui est marqué par son unité, est rompu pour que chacun puisse le partager. Voilà l'image à laquelle je parviens avec ce prompt, si vous voulez. Et je pense qu'il illustre véritablement la communion à laquelle on est appelé avec cette fraction du pain. Un seul pain rompu en plusieurs parts qui forme ce tout quand les adorateurs se rassemblent. Maintenant que j'ai rapidement parlé du pain, j'aimerais vous parler de la coupe qui contient le fruit de la vigne et qui est le sang qui est appelé à représenter le sang de l'Alliance répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, pour reprendre les termes utilisés dans Matthieu 26. Déjà, premier point sur la coupe. Le mot utilisé dans les évangiles pour désigner la coupe, c'est poterion, qui signifie récipient à boire. Là-dessus, quelque chose de relativement logique, un verre, une coupe. Mais aussi, métaphoriquement, coupe que Dieu nous présente à boire, entendu comme le sort que Dieu nous réserve. Et on le voit quand Jésus l'utilise lui-même dans Luc 22, verset 42, quand il prie son Père au moment de son trépas, ou du moins de la passion du Christ dans le jardin de Gethsémané. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, cette poterion, ce sort qui m'est réservé, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ainsi, au-delà d'être un réceptacle pour le fruit de la vigne, cette coupe symbolise aussi le destin du Christ, à savoir sa mort sur la croix. Comme le souligne Jésus, quand il partage la première scène avec ses disciples, cette coupe symbolise la nouvelle alliance en son sang, qui est répandu pour nous, nous dit Luc 22. C'est le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, c'est ce que nous dit Matthieu 26. Ainsi, quand nous goûtons à la coupe que Jésus nous propose de boire, nous nous associons à la coupe, au sort, au destin que Dieu lui a réservé, au destin qu'il a connu dans la mort, aux souffrances qu'il a vécues, à la lente et terrible agonie qu'il a subie et qui nous était normalement réservée. Nous goûtons à cette coupe parce que en elle se manifeste la nouvelle alliance. Pour qu'il y ait une nouvelle alliance, il fallait qu'il y en ait une ancienne. On est d'accord là-dessus. Il faut une première alliance pour qu'il y ait une nouvelle alliance. C'est ce que nous dit Hébreux au chapitre 8, au verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Quelle était cette première alliance? Une alliance passée entre Dieu et Moïse et le peuple hébreu qui conditionnait le salut au strict respect de la loi, à l'observation de sacrifices, de rituels qu'elle exigeait. Mais comme l'énonce Hébreux chapitre 10, verset 4, il est impossible que le sang de taureau ou de bouc enlève les péchés. Ainsi, la première alliance était un pédagogue, un enseignement pour que chacun comprenne que sans une intervention de Dieu, en réalité, tous étaient voués à la mort. Des générations se sont astreintes à respecter les nombreuses prescriptions prévues par la loi, sans jamais pleinement y parvenir. Parce qu'en réalité, l'ancienne alliance n'avait pas pour objectif de sauver. L'objectif, c'était de faire reconnaître à chacun son besoin de Dieu, son incapacité à faire seul le bien. La loi, symbole de cette première alliance, a été instituée pour que le peuple connaisse son péché, puisque personne ne peut en réalité être considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi. C'est ce que nous dira Paul dans Romains au chapitre 3, au verset 20. Leur culpabilité devant cette loi qu'ils ne parvenaient pas à respecter, devait les pousser à reconnaître leur nécessité d'un sauveur. La Bible nous donne tout un tas d'enseignements concernant cette ancienne alliance. Elle nous dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin vers le Père n'était pas encore ouvert tant que la première alliance subsistait, que cette ancienne alliance était un ensemble d'ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à un temps de réforme, un temps de changement. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, puisque la réalité ne se trouve qu'en Christ. Jésus est donc venu comme le garant, d'une alliance plus excellente, comme le médiateur de cette nouvelle alliance, comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est venu apporter son propre sang pour obtenir que chacun d'entre nous puisse bénéficier d'une rédemption éternelle. Il est entré dans le ciel afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu une seule fois. Une fois pour toutes, il a paru pour abolir le péché par son sacrifice. En cela, il a inauguré une voie nouvelle, une nouvelle alliance qui a été rendue effective par sa mort et sa résurrection. Colossiens, au chapitre 3, au verset 24 à 29, dans la version Summer, nous dit ceci. « Ainsi, la loi a été comme un gardien, chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » La nouvelle alliance est inaugurée par le sang de Jésus et il nous est permis d'y participer en acceptant par la foi que ce sang a été versé pour nous. Pour le pardon de nos péchés, pour la rédemption de nos âmes. Par cet acte de foi, nous devenons des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ et, chose importante, nous sommes invités à prendre part à la bénédiction d'Abraham déclarée juste par Dieu en raison de sa foi. Comme le souligne Galates au chapitre 3 et au verset 16, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Donc, si vous me suivez, si nous devenons co-héritiers de Christ, et Christ est la seule lignée d'Abraham, nous devenons donc héritiers des promesses faites à Abraham. De par cette lignée, nous bénéficions des bénédictions qui ont été promises à Abraham. Et j'ai noté une chose relativement remarquable dans Genèse, au chapitre 14, puisque c'est la première fois qu'il nous est parlé du partage du pain et du vin au 14e chapitre de la Genèse. Dans ce passage, Abraham vient de remporter une grande bataille. Et il rencontre un certain Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui vient à sa rencontre en lui apportant du pain et du vin. Et Abraham finit par lui donner la dîme de l'entièreté du butin qu'il a obtenu de par sa victoire lors de cette bataille. Cette figure relativement énigmatique qu'est Melchisédek apparaît et disparaît aussi vite dans les Écritures. Pourtant, elle est souvent rattachée à la personne de Christ. C'est le cas dans Psaume, au chapitre 110, qui, parlant prophétiquement de Jésus, affirme « Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » On a un rapport d'équivalence, si vous voulez, qui est dessiné ici par le psalmiste entre la figure de Jésus et la figure de Melchisédek, sacrificateur pour toujours. On l'a aussi dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, au chapitre 7, quand il est dit que Melchisédek est semblable au Fils de Dieu parce qu'il demeure prêtre pour toujours. Donc, si vous voulez, peu importe en réalité si on arrive à se dessiner les contours de Melchisédek, il faut véritablement le voir comme une image anticipatrice, si vous voulez, de la figure de Jésus. Et il y a quelque chose de beau, je trouve, à se dire que deux millénaires avant que Jésus ne rompt le pain et partage sa coupe avec ses disciples, Abraham, son ancêtre, a goûté aux prémices d'une communion avec le corps du Christ qui sera instauré des siècles plus tard et qui réunira l'ensemble des croyants. Quand nous goûtons à la coupe de Jésus, cette coupe de la nouvelle alliance qui met fin à la condamnation se rattachant à la loi, nous faisons nôtre le sort qu'a connu Jésus, le sacrifice qu'il a connu à la croix avec son lot de souffrance. Nous nous rappelons que son sang a coulé pour nous, pour le pardon de nos péchés, une fois pour toutes, et nous nous plaçons dans une position d'héritier de Dieu, co-héritier de Christ, et nous prenons part aux promesses faites à Abraham parce que nous intégrons par la foi sa descendance. Et je trouve que dans Genèse 14, il y a déjà cette forme anticipatrice du partage, de la communion fraternelle entre Abraham, le premier de la lignée, et le premier de la lignée par la foi, et Melchisédek, cette figure anticipatrice de Jésus. Ça, c'était pour la coupe. Maintenant, cette coupe, en tant que contenant, elle a un contenu, le fruit de la vigne. Et je me suis interrogé, pourquoi Jésus compare-t-il le fruit de la vigne à son sang ? Première raison que j'y ai vue, c'est que comme le pain est un aliment de base des peuples de l'époque, il en allait de même pour le vin en concernant les boissons. C'était une des boissons les plus répandues. Il s'agissait là d'une boisson accessible au plus grand nombre, peu importe ses moyens, peu importe son statut. De la même façon que le sang du Christ est accessible à tous, peu importe notre condition. De la même façon, le vin était une boisson qui était accessible à tous, du plus pauvre jusqu'au plus riche, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Deuxième raison, pour les anciens Israélites, posséder beaucoup de vin, et surtout du vin nouveau, c'était un signe de la bénédiction. Or, quelle plus grande bénédiction que de bénéficier du sang du Christ, parce que c'est par lui que nous entrons dans le salut de Dieu. Troisième raison, c'est que le vin était connu au temps biblique pour avoir de nombreuses vertus. Mélangé à de l'eau, il revigorait les malades. C'est là qu'on voit Paul qui assure à Timothée qu'il convient de ne pas continuer à ne boire que de l'eau, mais y mélanger un petit peu de vin pour son estomac et ses fréquentes indispositions. Associé à l'huile, il soigne les blessures. On le voit dans la parabole du fils prodigue, il banda ses plaies et versa de l'huile et du vin. Ce mélange-là avait pour objectif de désinfecter les plaies. Combiné avec de la bile ou de la myrrhe, il anesthésie. C'est la boisson qui est proposée à Jésus pendant son supplice sur la croix. De la même façon, c'est par le sang du Christ que nous obtenons la guérison. On le voit dans Ésaïe au chapitre 53 au verset 5. Décidément, j'ai un problème avec mes diapos. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si des meurtrissures, il ne coule pas de sang, je ne vois pas comment on peut appeler ça des meurtrissures. Donc c'est donc bien par le sang du Christ que nous obtenons la guérison. De la même façon que le vin avait ses quelques vertus dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Quatrième raison, l'image de la vigne est souvent utilisée pour traduire les rapports de Dieu avec son peuple. On le voit notamment dans Jean chapitre 15, quand il nous est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Or, c'est justement par le sang du Christ que nous bénéficions d'un droit d'entrer dans cette vigne. C'est son sang qui nous permet d'entrer en relation avec le cep, avec Dieu, pour en tirer ce dont nous avons besoin pour vivre, croître, porter du fruit. Enfin, cinquième et dernière raison, vous en aurez sûrement d'autres, mais c'est la cinquième que j'ai trouvée, c'est que le vin, vous le savez, est obtenu en pressant le fruit jusqu'à en faire couler le jus, et il était soit foulé aux pieds pour l'obtenir, soit battu avec des bâtons, écrasé avec des bâtons. Et je trouve que ça rejoint ce que Jésus a vécu et les souffrances qui lui ont été infligées avant la croix. On a la passion, évidemment, du jardin de Gethsémané, dont j'ai parlé tout à l'heure, où Jésus fut pressé par l'angoisse de la mort et tellement pressé qu'il coula de son front du sang. Et on l'a aussi dans les mauvais traitements qu'il subira un peu plus tard, roué de coups, frappé de toutes parts. Parce que le terme utilisé dans Ésaïe 53, pour nous parler prophétiquement des souffrances qui seront infligées à Jésus, c'est le mot « daka » qui est utilisé. Quand il nous est dit « il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités », brisé, c'est le mot « daka ». Il a plu à l'Éternel de le briser, là encore « daka », par la souffrance. Et le mot « daka », évidemment, peut être traduit par « briser », mais aussi « écrasé » ou encore « foulé aux pieds ». Pour obtenir du vin, il faut que le raisin soit foulé, écrasé. Pour obtenir le sang du Christ, il a fallu que le Christ, le corps du Christ, soit foulé, soit écrasé, soit pressé de telle manière que le sang puisse s'en écouler. J'y vois donc un processus, si vous voulez, similaire. Et donc, véritablement, ici, on comprend l'assimilation que fait Jésus entre le jus qui résulte du fruit de la vigne et son sang. Parce que le processus qui parvient relève quand même de certaines similitudes. Dernière chose importante sur ce fruit de la vigne, dans Jean chapitre 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est évoqué le premier miracle de Jésus qui marque son entrée dans le ministère. Vous vous souvenez de quel miracle il s'agit ? La transformation de l'eau en vin dans les noces de Cana. Je ne vais pas le lire en entier, je vous ai mis en gras les termes les plus importants. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. C'est ces vases de pierre contenant l'eau destinée à la purification des Juifs qui a été utilisée par Jésus pour être transformée en vin. Ça veut dire que les gens qui étaient pendant ce banquet, pendant cette noce, n'étaient plus en capacité de respecter les rites religieux, à savoir ici la purification avant le repas, pendant le repas, après le repas. Et je me suis dit, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose quand même de magnifique qui se dessine sous nos yeux ? L'eau destinée normalement à la purification, rituel ô combien important dans la tradition juive, on le voit hein, dans Marc au chapitre 7, verset 3, quand il nous est dit que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. C'est cette eau-là qui est transformée dans son intégralité par Jésus en vin. Est-ce qu'on ne peut pas y voir ici un signe anticipateur de la nouvelle alliance, de la nouvelle voie que Jésus est venu instaurer ? Est-ce que ici, ce n'est pas le signe que bientôt, très prochainement, les ablutions rituelles, ces lavements rituels n'auront bientôt plus d'importance ? Parce qu'une chose bien plus excellente sera versée sur chacun pour obtenir une purification totale. Non pas cette purification partielle qui était permise par l'eau, cette eau de purification, mais une purification totale et permanente par le sang de Jésus. Les invités de cette noce se voient privés de la source de leur purification selon la loi pour bénéficier d'un vin excellent. Un vin qui est meilleur que tout ce qu'ils ont bu pendant leur repas, ce qui contrevient à toutes les règles élémentaires du savoir-vivre ici juif. Ce vin sera source de réjouissance. Ce vin proviendra de la personne de Jésus. De la même façon, nous sommes appelés à nous réjouir quand nous goûtons aux fruits de la vigne parce qu'ils symbolisent la fin d'une purification partielle et l'avènement d'une purification totale par le sang de Jésus. Troisième point, j'irai beaucoup plus vite sur les deux prochains. Jésus ne boira plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira avec nous dans le royaume de Dieu. Le fait que Jésus affirme qu'il ne boira plus du fruit jusqu'au jour, du fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira avec nous dans le royaume de Dieu, ça doit nous encourager. La scène que nous prenons est un acte de communion tous ensemble avec le corps de Christ, mais c'est en réalité un début. C'est une annonce prochaine de quelque chose d'encore plus grand. Nous goûtons aux prémices d'un banquet, celui des noces de l'agneau, celui dont il nous est parlé dans Apocalypse 19 et qui marquera les retrouvailles de Jésus, l'époux, avec son épouse, l'Église. La scène n'est donc pas une fin en soi, c'est l'annonce de quelque chose d'encore plus grand et nous sommes appelés à le pratiquer jusqu'au retour de Christ pour nous rappeler de ce qui nous attend, de cette destinée à laquelle nous tendons. Enfin, il nous est dit de faire ceci en mémoire de Jésus. Nous sommes appelés à le faire en mémoire de Jésus, à prendre de ce pain, à goûter de ce fruit de la vigne, parce que c'est la mémoire de son sacrifice, de sa souffrance, de son sang versé, de sa résurrection, de la portée de son acte d'amour pour nous, du pardon de nos péchés, de notre rédemption, de notre réconciliation avec le Père. Je me suis intéressé à ce mot « en mémoire ». En mémoire, c'est le mot anamnésis qui signifie souvenir, retour en arrière. Il a été utilisé 4 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois, c'est pour parler de la Sainte Cène, la scène. Une seule fois, c'est dans Hébreux au chapitre 10 au verset 3. Dans ce passage, il nous est dit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir, anamnésis des péchés, est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Là où la loi, les sacrifices étaient un rappel constant du péché, du souvenir du péché qui devait être renouvelé chaque année, pour que le peuple se rappelle de son état d'esclavage vis-à-vis du péché, la scène, elle, est le symbole du sacrifice de Jésus, le sacrifice parfait qui est venu rompre tout lien et nous offrir une délivrance pleine et entière. J'aurai un dernier mot sur la manière de prendre la scène, puisque nous sommes appelés à le faire en mémoire de Jésus, mais il y a une manière qui nous est présentée dans la Bible. La Bible nous donne quelques indications sur la manière de pratiquer cette scène. Déjà, nous sommes appelés à le faire quand nous sommes assemblés. Je ne suis pas sûr que c'est un intérêt de pratiquer la scène seul chez soi. Nous sommes appelés à le faire quand nous sommes assemblés. La deuxième chose, c'est que nous sommes appelés à le faire régulièrement. Il y a cette notion de persévérance dans Acte 2. Donc ça veut dire que ce n'est pas une fois pour toutes, c'est on persévère aussi bien dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Et nous sommes appelés à le faire avec une certaine disposition de cœur. Et là, Paul nous livre un enseignement qui est magistral dans 1 Corinthiens au chapitre 11 quand il nous dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons plus condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Bon, on reconnaît bien là la plume de Paul. Nous sommes invités à prendre le pain et la coupe dignement. Alors, il faut s'interroger. Ça veut dire quoi, prendre le pain et la coupe dignement? Ici, il faut se référer au contexte dans lequel Paul écrit cette lettre aux Corinthiens. Et en réalité, en remontant quelques versets plus haut, on se rend compte du contexte. Au verset 20 et 21, il nous est dit « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Bon, les Corinthiens faisaient du repas du Seigneur l'occasion simplement de se rassasier, voire de s'enivrer. Les pauvres mangeaient peu, puisqu'ils ramenaient leur repas, ils mangeaient peu. Les riches, eux, mangeaient beaucoup, eux, ça allait. Et tous passaient à côté de la symbolique voulue et instituée par Jésus. Paul les corrige pour que le cadre de ce repas soit respecté, notamment pour que chacun s'attende et ne mange pas parce qu'il a faim. On ne mange pas à la scène parce qu'on a faim. L'avantage, c'est qu'on mange un petit bout de pain. On ne le mange pas parce qu'on a faim. On le mange pour partager un repas dans l'unité et prendre indignement le pain et la coupe, si on se réfère à ce passage, c'est le fait de ne pas s'attendre. C'est le fait de ne pas prendre le repas dans l'unité. C'est le fait de le prendre avec légèreté. Nous sommes invités aussi à nous éprouver chacun individuellement. Tout chrétien est invité à participer à la scène à condition qu'il s'éprouve, qu'il s'examine au moment où il la prend. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé à être digne de prendre la scène. On ne peut pas être digne, et ça a été rappelé par Gérald dimanche, on n'est pas digne en réalité de prendre la scène. Le sang du Christ nous justifie et nous permet de prendre la scène. C'est une grâce qui nous est faite d'accéder à la table du Seigneur et de goûter à ce repas. C'est ça qui nous est appelé à faire. C'est à faire cet état de conscience, un examen de conscience qui est essentiel pour participer correctement en réalité à ce repas. Chacun doit respecter un temps d'introspection où il va sonder son cœur pour y chercher d'éventuels manquements et s'il en trouve, les confesser à Dieu avant de prendre la scène. Et j'ai noté cette formule de Calvin qui résume, je pense, ce point d'une façon assez bien tournée. Cette épreuve de soi-même consiste à s'assurer que l'on a une vraie repentance et une vraie foi. Non pas une repentance et une foi parfaite, car à ce compte, tous les hommes seraient toujours retenus loin de la scène. Mais si aspirant du fond du cœur à la justice qui vient de Dieu, humilié par le sentiment de ta misère, tu te confies et tu t'abandonnes tout entier à la grâce de Christ, tu es un convive dignement préparé pour t'approcher de cette table. En effet, celui-là est digne que le Seigneur n'exclue pas, alors qu'il lui resterait beaucoup à désirer encore, car la foi même, dans ses commencements, rend digne les indignes. La foi rend digne les indignes. La foi dans le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave de nos péchés et qui nous donne cet accès à la table du Seigneur. Enfin, et c'est le dernier point qui est mentionné dans ce passage, nous sommes appelés à discerner dans cette pratique le corps du Christ. Les actes de prendre le pain et le fruit de la vie ne sont que la manifestation visible d'une conviction profonde. Ceux qui participent à la scène doivent considérer Jésus en tant que Seigneur et Maître de leur vie. Ça n'est qu'à cette condition qu'on peut véritablement s'approcher de lui et que Jésus peut venir vivre en nous. En réalité, on déclare par ce repas que la mort du Seigneur est à la base de notre vie spirituelle, qu'elle est la source de notre espérance. Manger un morceau de pain, boire du fruit de la vigne sans avoir cette conviction profonde, sans avoir cet attachement à la figure de Christ, ça n'a absolument aucun sens. On mange peu, on boit peu. Je ne sais pas si ça vous a un jour ravi de manger un bout de pain et un demi-gobelet de jus de fruits, mais ce n'est pas assez. Sauf si on prend la pleine mesure de ce qu'on est en train de réaliser, la manifestation visible de quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus profond. En conclusion, la scène a été instituée par Jésus comme un acte commémoratif de son sacrifice, de son sang qui a coulé à la croix pour le pardon de nos péchés, pour notre rédemption, pour notre réconciliation avec le Père. Il nous a demandé de le faire en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne et que nous puissions goûter au banquet des noces de l'agneau avec lui dans le royaume de son Père. On est appelé à le faire en assemblée, en communion les uns avec les autres, d'un même cœur. Et j'y vois, si vous voulez, vraiment le summum de la communion fraternelle, qui est cette sainte scène. C'est le culminé, c'est le point culminant de notre communion fraternelle. Le morceau de pain que nous mangeons appartient en réalité à un tout qui ne trouve sa pleine dimension que en Jésus. D'abord le pain rompu, puis la coupe contenant le fruit de la vigne. Lorsque dans les évangiles, on s'intéresse au moment où Jésus a rendu son dernier souffle sur la croix, il nous est dit qu'un soldat vient lui planter le flanc et qu'il en tire de l'eau et son sang. D'abord le pain rompu, puis le sang versé, puis le fruit de la vigne. Il a fallu d'abord que le corps de Jésus soit meurtri, soit ouvert, soit rompu pour en tirer le fruit de la vigne, pour en tirer le sang qui vient purifier nos âmes. Par cette association du pain et du fruit de la vigne, nous sommes appelés à commémorer le moment le plus important de notre existence, qui est le même pour chacun, et c'est ça qui fait de nous une communauté, qui nous permet d'entretenir une communion fraternelle, parce que peu importe nos origines, peu importe notre condition sociale, l'événement le plus important de nos vies, c'est la mort et la résurrection de notre Sauveur. Comme les yeux des disciples s'ouvrirent et reconnurent Jésus dans Luc 24, lorsque ce dernier ressuscité et incognito vient rompre le pain et que les yeux des disciples s'ouvrent et reconnaissent Jésus, nous sommes appelés à reconnaître Jésus dans cette pratique de la scène, à ce que nos yeux s'ouvrent véritablement pour y discerner la présence de Jésus qui rompt ce pain avec nous et qui boit ce fruit de la vigne. Enfin, et ce sera mon dernier parallèle, quand Paul se trouve prisonnier sur un navire qui le mène à Rome pour comparaître devant César, et qui subit avec l'équipage une tempête, il leur dit ceci: « Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous, et il partagera ici du pain et du vin. » Et je pense que c'est la même chose pour nous. Il en va de notre salut. Il en va de notre salut que de pratiquer la scène de façon correcte, de façon adaptée par rapport aux enseignements que nous donne la Bible, à y discerner le corps du Christ et à le faire en communion fraternelle. Amen.